Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez à l'occasion des RMC Sport Games. On est très heureux de vous accueillir ici à la montagne, chers auditeurs. Nous sommes en direct à la radio, évidemment, jusqu'à midi, mais vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube d'RMC Sport pour admirer nos grands champions qui sont avec nous. On va les accueillir dans quelques instants à l'Alpe d'Huez, mais également les grandes gueules du sport. Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, dans quelques instants. Nous allons parler, est-ce un gros mot ou non, l'héritage des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques 2024. 11h45, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Et puis évidemment, vous réagissez au 32-16. Vous venez participer au débat avec nous. Nos deux invités pour cette nouvelle heure d'émission dans les grandes gueules du sport ce matin en direct de l'Alpe d'Huez. Alors sachez que nous ne sommes qu'amour dans les grandes gueules du sport. Alors nous recevons deux amoureux qui ont chacun transpercé le cœur de l'autre. Qu'est-ce que c'est beau. Ils sont archers. Lisa Barbelin, médaillée de bronze en individuel aux Jeux Olympiques de Paris, et Thomas Chirot, vice-champion olympique par équipe aux Jeux Olympiques de Paris également. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir.
Ah bah on est ravis, ça va être super je pense.
Ouais, c'est impressionnant comme ça d'être face aux grandes gueules du sport ou non, c'est plus impressionnant quand même d'être face au public à Paris.
C'est plus impressionnant à Paris, je pense, parce que là, on a la montagne derrière et ça apaise vraiment tout. Donc,
on est vraiment. Et là, vous êtes deux athlètes apaisés.
Ouais, on est deux athlètes apaisés, mais un peu fatigués peut-être.
Ok.
Par la soirée. Sur la piste de danse, on voyait des flèches.
Il y a le sporting.
Ok, vous êtes fatigués. Sachez que il va falloir tenir le discours parce que avec vous, vous avez des GG assez remontés ce matin sur ce qui se passe en politique en France et qui a forcément des répercussions. Sarah. Sur le monde du sport, Sarah a beaucoup de choses à nous dire sur l'héritage.
C'est mon cheval de bataille.
Donc les Jeux Olympiques, toutes les semaines, elle nous propose un débat sur l'héritage. À chaque fois, on lui dit non, c'est bon, Sarah.
Ça n'intéresse personne.
On en parlera pendant la pub. Mais là, c'est très important d'en parler, surtout après cette semaine. Alors, je vous propose un proverbe français pour débuter ce débat. Promesse de grand n'est pas héritage.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
C'est un 9 et ça fait la victoire pour les Sud-Coréens. Les Français devront se contenter de la médaille d'argent. La clameur dans le stade et les Coréennes, mais bien sûr les applaudissements vont suivre ensuite pour les Français. Jean-Charles Valadon, Baptiste Hadis, Thomas Chirot en argent.
Allez, on tire
à l'arc par équipe. Deux secondes d'avance pour Marie Patouillet. Elle va être championne paralympique. Marie Patouillet, championne paralympique de la poursuite individuelle dans la catégorie C5. La victoire, elle est dans la poche de Léon Marchand. De ce phénomène de la natation mondiale, de la natation française, du sport mondial. Léon Marchand, quadruple champion olympique,
600e du record du monde.
Pauline Ferrand prévoit qui passe la bosse, qui peut lever les bras, qui serre le poing, qui lève le poing, le sourire aux lèvres. C'était son Golgotha, 6 Jeux Olympiques. Et bien le Golgotha se transforme en paradis. Pauline Ferrand prévoit championne olympique.
La musique qui nous rappelle de très très bons souvenirs sur RMC. La priorité, c'est l'héritage des Jeux. Cette phrase date du 24 septembre dernier. Elle était signée Gilles Averrousse, tout juste nommé ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative. Deux mois et demi plus tard, beaucoup de choses ont changé. Il y a quelques semaines, nous apprenions que dans un contexte, vous le savez, de déficit des comptes publics, le budget du ministère des Sports allait être raboté de 174 millions d'euros par rapport à 2024. Et la chute du gouvernement Barnier cette semaine, renforce l'incertitude sur le sport et l'inquiétude sur le budget. Rien n'indique aujourd'hui que les sports auront un ministère de plein exercice avec un nouveau gouvernement. Alors la musique qui fout les jetons et cette question dans les grandes gueules du sport ce matin. Faut-il oublier l'héritage des Jeux Olympiques ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
J'en ai bien peur.
Sarah Pitkowski.
Totalement oui, on s'est fait rouler dans la farine.
Julien Beneteau.
Non, pas encore, il faut se battre.
Denis Charvet.
Toujours se battre.
Ok. Thomas Chirot.
Je pense qu'il faut en tirer du positif quand même, on va essayer de trouver des solutions.
Ok, Lisa Barbelin.
Je crois que tout a été dit et je suis plutôt d'accord avec le positivisme.
Ok, il y a un côté positif, voilà. Un côté négatif, c'est aussi ça qui nous rassemble dans les grandes gueules du sport. Voilà. Avant de vous entendre...
Il y a les doux rêveurs et les pragmatiques.
C'était il y a quelques semaines, Gilles Averrousse, lui, était confiant sur cet héritage des Jeux Olympiques.
on a une attention particulière sur le développement du sport et qu'il n'y a pas aujourd'hui d'affaiblissement de notre volonté d'augmenter la pratique sportive. Et les résultats, d'ailleurs, au lendemain des Jeux Olympiques, sont là, puisque la pratique sportive, elle augmente partout. Tant en club, sur la natation, on est à plus de 10%, qu'en pratique individuelle, où vous le voyez sur les courses, sur le running le dimanche, il y a de plus en plus de participants, on bat tous les records. Donc il n'y a pas de sujet sur la volonté de développer le sport. Il y a un recentrage sur les établissements prioritaires parce que c'est là où il y a la moins de pratique sportive. Et puis l'année prochaine, on réévaluera et on réadaptera en fonction. Voilà.
Et voilà, faut-il oublier l'héritage des Jeux Olympiques, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je vous demanderai, on est beaucoup dans le studio RMC et on a le plaisir de recevoir deux champions. Je vous demanderai juste d'être plus synthétique pour que tout le monde puisse avoir la parole. Pourquoi oui, il faut oublier avec ça, il faut arrêter avec l'héritage.
Parce que ça date pas de la chute du gouvernement, ça date de la fin des Jeux Olympiques. Les décisions ont été prises à ce moment-là. Il était normal que le budget des sports descende un petit peu puisqu'il y avait une enveloppe dédiée aux médailles. Donc ce montant-là, évidemment, il ne va pas continuer. Mais aujourd'hui, on est à moins 20%. Et je parle du sport de haut niveau, je parle de la vie associative et de la jeunesse. Et je parle aussi du sport en général, c'est-à-dire que les budgets ont été réduits à des sommes qui sont faméliques. Et même aujourd'hui, je vais juste vous donner j'ai lu quelque chose qui est assez symptomatique. Même un syndicat, les syndicats ne se sont jamais intéressés au sport. La CGT revendique aujourd'hui que 1% du budget de l'État soit consacré au sport. On n'en est même pas à ça. Donc on nous a servi avant les Jeux en disant on va investir dans le sport. Donc c'est-à-dire que on devait construire de plus grand nombre de structures sportives. Donc il y a eu une aide auprès des collectivités. Il y a eu ce fameux passeport, c'est-à-dire que pour 50 euros, tout adolescent pouvait s'inscrire dans un club ou en tout cas payer sa licence. Et puis il y a eu ces fameuses 2 heures supplémentaires dans les collèges pour augmenter le sport. Tout ça, c'est un trait. C'est-à-dire que tout a été arrêté. Et on nous parle d'héritage des Jeux, mais les collectivités, aujourd'hui, elles ont moins de budget. Elles vont faire les arbitrages où, aujourd'hui ? Aujourd'hui, les régions sont en train d'enlever des budgets pour des grands événements sportifs. Donc, si on donne pas des subventions à un sportif pour se former, si on donne plus d'argent pour que les grandes compétitions se fassent en France, ne nous dites pas que les Jeux ont servi à quelque chose. C'est juste une belle vitrine. On est super fiers, mais on s'est fait totalement rouler dans la farine.
Ok, on s'est fait rouler dans la farine. Julien Beneteau vient de changer d'avis, non ? Non, tu gardes le côté positif ?
Non, non, c'était la définition de synthétique que je voulais voir avec Sarah.
Ah oui.
ça va, ça. Moins d'une minute trente.
Non, moi je veux encore y croire sur l'héritage, sur les infrastructures qui ont été créées et qui sont là. Bien sûr, la place du sport dans notre pays et dans les écoles est déterminante et ça va faire partie de l'héritage. Je pense que c'est pas encore perdu et peut-être que Tony Stanguet va devenir ministre des Sports et que devient ministre des Sports, il aura à cœur.
Est-ce qu'il aura les moyens?
Un gros pilier. Oui, il aura vraiment un gros pilier des Jeux Olympiques.
Mais déjà, ce sera un choix fort en tout cas.
Oui, mais tu auras les moyens. Soit Tony Estanguet ou Hollande, si t'as pas les moyens.
Non, il y a la réalité économique à laquelle se heurte le pays et à laquelle il se heurtait déjà avant les Jeux. Moi, j'attendais pas énormément. On nous a bassinés avec l'héritage olympique. Moi, j'en attendais pas des merveilles. Parce que quand tu sais la situation économique dans laquelle est la France, tu sais qu'il y a des priorités. Et aujourd'hui, la priorité des concitoyens, c'est la sécurité, c'est
le pouvoir d'achat.
C'est le pouvoir d'achat, c'est la défense nationale, c'est la lutte contre l'insécurité. Tout ça, le sport, évidemment, que tout le monde a envie que ses enfants fassent du sport et tout le monde a envie qu'on puisse développer des champions et que tout le monde ait des infrastructures. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des priorités et le sport n'est pas la première priorité. Mais ça date pas.
Ça n'a jamais été la priorité.
Jamais. Ça n'a jamais été la priorité.
On n'est pas dans le sport.
Non, il y a eu des décisions fortes sur les 3 années précédant les Jeux Olympiques. Il y a eu quand même des décisions qui ont été très fortes. Il y a la Fondation du sport français qui a été créée. Cette fondation était le réceptacle de, au lieu de faire du sponsoring, c'était on faisait du mécénat. Ça n'existe pas dans notre pays. La culture du mécénat sportif, c'est très anglo-saxon. C'est pas du tout français. Bah, la Fondation du sport, elle a encore son budget qui est baissé de 10%. Mais faut-il encore qu'il y ait des entreprises qui aient envie de faire des dons aux sportifs? Sinon, tu fais quoi?
Mais justement, nous avons deux sportifs qui ont brillé.
Les anglo-saxons le font.
Deux sportifs qui ont brillé durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors évidemment, ils sont toujours en train de surfer, Lisa Barbelin et Thomas Chiro sur cet effet Jeux Olympiques. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, vu de votre fenêtre, que le soufflet est en train de retomber, Lisa Barbelin?
Oui, tout à fait, parce que je suis d'accord avec le positivisme de voir qu'il y a plein de gens, plein de jeunes qui vont dans des clubs et qui vont se former. Mais du côté sportif de haut niveau, bah, y a beaucoup moins d'entreprises qui nous suivent. Ah oui. Y a eu beaucoup de belles promesses qui n'ont jamais été tenues. Et ça, c'est un côté qui est difficile à dire. En fait, on n'arrive pas trop à se placer entre l'héritage qui est positif avec plein de nouveaux jeunes qui vont faire du sport et aussi parfois des parents qui vont les suivre. Et ça, c'est important aussi, je pense, que ce ne soit pas que les enfants qui fassent du sport. Mais à côté, sur le point de vue sportif de haut niveau, bah, par exemple, un truc très simple, mais l'ANS avait une aide pour le cercle haute performance qui était de 2 ans. Aujourd'hui, elle passe à 1 an après les Jeux. Et du coup, la question, elle est là, c'est est-ce que ces merveilleux résultats des Jeux Olympiques vont retomber bientôt, ou peut-être qu'il va y avoir des décisions fortes qui vont être prises pour justement aider les sportifs? Et ça, à l'heure actuelle, je pense qu'on ne sait pas trop dire.
La question est un peu cash, mais est-ce que vous avez l'impression, Thomas Chiro, à un moment donné, qu'on s'est un peu servi de vous, parce qu'il fallait faire vivre les Jeux Olympiques, et puis à un moment donné, le sport de haut niveau, bon bah on vous laisse un peu tomber, parce que merci pour tout ce que vous avez fait, mais là on est passé à autre chose.
Mais je pense que c'est une question vraiment importante. On est un peu des perpétuels rêveurs et on a, avec Lisa, en tout cas, l'envie que ça fonctionne et que derrière, il y ait des retombées, un réel échange partagé, etc., autour de vraies valeurs. Mais c'est vrai que dans le monde du sport et aussi dans le monde de l'entreprise, on a cette sensation que par moment, on se sert du rayonnement des Jeux et de nos personnalités pour les faire briller eux. Et après, une fois que c'est fini, tout est fini et il y a pas de suite, quoi.
Julien Benetto. Alors,
sur le haut niveau, il faut vraiment qu'il y ait une continuité de la part de l'ANS et de la part des sponsors. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec Auréane Malo-Breton qui a eu double médaille d'argent. Elle me dit aujourd'hui, je n'ai plus aucun sponsor. Ils m'ont suivi parce que c'était l'Olympiade Paris 2024 et l'Olympiade est terminée. Pour repartir sur un autre projet, pour l'instant, j'arrive pas à trouver de sponsor alors qu'il y a eu deux médailles d'argent. Donc c'est symptomatique de ce qui se passe. Mais pour moi, c'est tellement inconcevable qu'on laisse passer les Jeux Olympiques de Paris 2024 sans qu'il y ait une suite, sans qu'il y ait un lendemain, que j'y crois encore.
Oui, mais c'est
mais peut-être que crois, mais il faut-il encore qu'il y ait une véritable volonté?
Il y a que des promesses,
mais bien sûr,
qu'il y a
des actes, etc. Et je suis dans cet état d'esprit-là.
Oui, moi, j'ai une question pour Thomas et Lisa.
Sarah Pitkowski.
Il y a eu un débat, hein, la fin des Jeux, vous savez, sur cette fameuse fiscalisation des médailles, où c'est monté, hein, on s'est un peu offusqué en disant, mais comment peut-on imaginer de fiscaliser?
C'est David Douillet sur RMC qui a fait cette demande, et puis finalement, ça avait été accepté.
Ça avait été accepté.
Mais pas signé.
Mais on sait que le montant des médailles a été augmenté entre les Jeux de Tokyo et les Jeux de Paris. Et aujourd'hui, est-ce que vos médailles sont fiscalisées?
Oui.
Aujourd'hui, oui.
Ben ça, c'est une honte.
Ça fait partie.
Sans nom.
Ça fait partie aussi du fait qu'on se serve du rayonnement des athlètes, parce qu'en fait, les primes des médailles ont été réévaluées à la hausse.
Oui.
Du coup, on se retrouve avec une belle image de la France
qui donne beaucoup
aux sportifs, etc. Mais derrière, on a imposé la fiscalité qui fait que finalement, on retombe à deux.
Tu gagnes moins d'argent que.
Sauf qu'on s'est servi de l'image des sportifs et des médailles. C'est-à-dire, ça a servi au rayonnement de la France.
Bien sûr.
Et ça, alors on entendait dire oui, mais enfin bon, on fiscalisait les 4 médailles ou les 5 médailles de Léon Marchand, les 2 de Teddy Riner. Mais en fait, on parle de combien de sportifs avec leurs sponsors, j'ai envie de dire que la médaille, oui, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour 90% des sportifs, c'est pas hyper important. C'est indispensable.
Vital,
vous n'allez pas les mettre sur un compte, pas y toucher cet argent-là. Vous en avez besoin pour investir pour vos prochaines Olympiades. Donc comment on peut réfléchir juste une seconde de dire on va fiscaliser ces médailles? Une carrière de sportif, elle est courte.
Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y ait pas un homme ou une femme politique qui soit capable d'expliquer avec des bons arguments en quoi c'est normal qu'elle ne soit pas fiscalisée et que ce n'est pas une injustice par rapport au reste des Français, à le reste de la population qui se lève à 6h du matin et qui travaille, qui ont payé des impôts. C'est, voilà, argumenté, présenté.
Ils ont participé au rayonnement de la France.
Exactement.
À un moment donné, sur cette compétition, il faut aussi...
C'est pas fait, c'est pas normal.
D'ailleurs, vous parliez des sponsors, là. Est-ce que vous en avez gagné, là, depuis les Jeux Olympiques? Ou alors, on sait que vous êtes dans un sport, évidemment, que l'on suit énormément, mais tous les 4 ans seulement. Il ne faut pas se mentir. Est-ce que vous arrivez, justement, à vivre? Ou est-ce que vous vous attendiez avec une médaille avant les Jeux Olympiques en se disant, ah, franchement, ça va tout changer pour nous, Lisa?
Je pense qu'on se disait plutôt ça. En plus, avec l'histoire de couple, tout ça, on s'imaginait que ça allait faire venir des sponsors. Et finalement...
Mais vous étiez mis en couple que pour ça, d'ailleurs.
Non, c'était pas
ça. Oui. Ah bah attendez, c'était bien répété.
Tout ça pour dire que là, tous les contrats arrivent à échéance au 31 décembre. Ouais. Tous les contrats partenaires privés. En revanche, on est tous les deux à l'armée de champions. Et l'armée, ça dure encore jusqu'à 2 ans. Enfin, on a re-signé nos contrats pour 2 ans. Donc ça, c'est super important. Et on a beaucoup de chance d'avoir cette reconnaissance de l'État par rapport à l'armée. Mais tous les partenaires privés arrivent à échéance bientôt. Et on a, à l'heure actuelle, on n'a pas de nouveaux contrats. On n'a pas signé de nouvelles choses qui nous permettent de se dire « Ok, on part sur 4 ans sereinement ».
Ok, dans ces cas-là, s'il y a des contrats qui arrivent, c'est quand ça se passe juste avant les Jeux Olympiques en 2028. C'est à ce moment-là que les contrats vont arriver, Thomas ?
Vous n'avez pas une agence qui s'occupe de vous ?
Ça fait partie des choses qu'on essaye de mettre en place. Et voilà, malgré... Là, on dit qu'il n'y a pas de contrat qui tombe, mais c'est un peu comme si on attendait que ça arrive.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas le cas du tout. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on remue ciel et terre pour
vous
aller ouvrir
les
portes.
C'est vous qui allez ouvrir les portes.
Bien sûr, ça nous demande beaucoup de temps, etc. Ouais. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas encore de retombée. Il y a plein de discussions qui sont amorcées.
Ouais.
Mais on a l'impression que c'est vide.
Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de champions olympiques en France et trop de médailles? Parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Quand on voit évidemment un Léon Marchand qui est omniprésent, un Teddy Riner, même les frères Lebrun, là aussi ils ont joué sur le fait d'être frères, mais on les voit beaucoup, un peu moins finalement pour le tir à l'arc, alors que vous avez procuré les mêmes émotions aux gens pendant les Jeux. Comment vous expliquez ces différences?
C'est vrai que c'est difficile à expliquer. Je ne sais pas si tu as quelque chose...
Moi, je pense qu'il y a quelques athlètes qui sont un peu aimants des entreprises, des médias, etc. Et que tout le monde se concentre autour des mêmes personnes. Mmh. Alors qu'en fait, finalement, c'est un large panel d'athlètes qui ont besoin d'être soutenus pour, une fois tous les 4 ans, faire lever la France.
Qui ont tous une histoire qui peut apporter à une entreprise. Parce qu'on s'est rendu compte, avec nos différentes interventions auprès des entreprises, que le monde du sport de haut niveau est hyper transposable à l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on se demande pourquoi est-ce qu'elles ne nous suivent pas.
Mais je vous pose la question et je ne vous demande pas d'être politique, pour le coup. Mais quand on voit ce qui se passe, la situation politique de notre pays, est-ce qu'en face de vous, quand vous avez des sponsors, des entreprises privées, ils vous disent, écoutez, on est dans l'incertitude totale et nous, on ne peut pas s'engager avec vous. C'est trop compliqué. Est-ce que ça, vous le ressentez?
C'est vrai qu'on a eu quelques retours comme celui-ci qui disait que, au vu de l'instabilité actuelle, s'ils avaient du mal à s'engager et que s'ils pouvaient le faire, ça serait que sur une durée d'un an, donc ce serait déjà incroyable.
C'est déjà très bien.
Mais c'est vrai qu'on ressent un petit peu ce poids politique sur les entreprises qui naviguent un peu à vue.
Ouais,
sincèrement,
c'est des fausses excuses. Je pense que les entreprises aujourd'hui cherchent un moyen de se défausser un petit peu parce que il faut aussi savoir qu'ils ont eu le pistolet sur la tempe, c'est-à-dire qu'il y a un moment, Paris 2024 et le gouvernement français a mis la pression sur certaines grandes entreprises françaises, des multinationales, en disant mais vous pouvez pas ne pas en être d'une manière ou d'une autre. Et cette fondation du sport. Je reviens sur la fondation du sport, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent et l'entreprise est défiscalisée. Ils ont même ouvert les dons aux gens, aux particuliers. C'est-à-dire que si tu as envie de donner, j'ai envie de donner 1000 euros, super, je vais avoir une défiscalisation. C'est-à-dire qu'on est dans des sphères où en fait on essaie de boucher des trous avec rien du tout. En fait, il n'y a pas une véritable volonté. Et ça, c'est vraiment dommageable parce que Lisa le dit, aujourd'hui, un sportif qui rentre dans une entreprise, les gens ouvrent les yeux, ils sont d'une admiration et un sportif de haut niveau véhicule des valeurs aujourd'hui qui sont effectivement transposable et c'est incompréhensible en fait, vraiment. Mais il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui. Donc en fait, on attend que le privé prenne le relais de la politique sportive en général.
Mais pour l'instant,
et c'est là le déséquilibre.
Pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. On continue de parler de l'héritage. Merci beaucoup, Lisa Barbelin, Thomas Chirot, d'être venu nous voir, évidemment, sur un sujet assez complexe. Mais on est très heureux de vous voir et de vous recevoir ici à l'Alpe d'Huez. On a entendu, il y avait une petite prod où on a entendu la médaille d'argent des copains de Thomas Chirot il y a quelques instants. On n'a pas écouté la médaille de bronze en individuel de Lisa Barbelin. C'était comme ça sur RMC avec les larmes, évidemment, de Lisa.
Allez, indice, et c'est la médaille de bronze. Lisa, l'attention à l'esplanade des Invalides. C'est un 10, c'est un 10, c'est de juste oui, c'est gagné. Lisa Barbelin, médaille de bronze de ces Jeux Olympiques de Paris. Elle est en larmes, Lisa, c'est magnifique.
Bon, Lisa, une petite question quand même, ça fait toujours du bien d'écouter ça?
Ça fait toujours du bien et j'ai toujours les larmes aux yeux. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera, mais j'arrive pas, c'est trop beau.
Dans 4 ans.
Dans 4 ans.
Pour chasser ses larmes.
Exactement.
Okay. Est-ce que tu as encadré ton Bob de cette journée-là?
Non, je ne l'ai pas encadré.
Il faut le mettre sous verre,
mais
celui-là.
Je pense qu'il faudrait, oui.
Merci beaucoup, Lisa Barbelin, beaucoup. Thomas Chiraud, d'être venu nous voir. Et on espère vous réaccueillir de nouveau à l'occasion des RMC Sport Games. On se retrouve dans quelques instants. On continue de parler d'héritage avec de nouvelles championnes qui vont venir nous rejoindre dans le studio RMC. A tout de suite et on vous attend évidemment au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h31 de retour dans les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez avec nos GG ce matin, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Julien Beneteau et vous l'entendez forcément, le Père Noël à la montagne est avec nous. Nous sommes au mois de décembre, nous sommes le 7 décembre et c'est le moment de vous gâter sur RMC.
Le grand Noël RMC.
PlayStation 5 Pro, iPhone 16, 10 000 euros et tant d'autres cadeaux, pardonnez-moi, sont à gagner sur RMC. Inscrivez-vous tout de suite. Envoyez Noël au 732-16. Noël au 732-16. Il y aura un sapin avec des boules. Oui, un sapin avec des boules. C'est Noël, c'est la tradition. Vous choisirez en direct sur RMC une boule à l'effigie des grandes gueules du sport. Et vous remporterez le cadeau associé à cette boule. C'est très simple. Noël au 732-16, plus de 100 000 euros de cadeaux sont à gagner jusqu'au 24 décembre. Il n'y a pas le Père Noël ? Okay. Merci Pierre Noël. Nous recevons deux championnes dans le studio RMC, d'Antonin Caïta. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, quadruple médaillé paralympique, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Paris. Et Cécile Hernandez. Bonjour Cécile.
Salut.
Championne paralympique de snowboard en 2022, consultante RMC lors de ces Jeux paralympiques à Paris, quadruple championne du monde. Tu viens de remporter les deux premières étapes de la Coupe du Monde, donc tout va bien pour toi.
Tout va très bien. En plus, on est à la montagne, donc tout va parfaitement bien.
Ok, nous sommes dans ton élément. Tu as un peu skié aujourd'hui ?
Hier, et là j'y retourne. Hier, snowboard, s'il te plaît. C'est attention.
Hein. Pareil, c'est de la glisse.
Absolument pas. Non, c'est pas. Oh, le cliché.
Non, mais est-ce que tu fais du ski, par exemple ?
J'ai fait du ski.
Est-ce que tu aimes faire du ski ou non ?
Non, c'est que je pense qu'avec mon handicap, je ne sais plus faire de ski, mais à l'impossible, il est tenu, donc on pourrait tenter ça. On y va toutes les deux après ?
Oui, bah, on va pas aller très vite, en tout cas. Ensemble.
Pas de souci.
On est très heureux de vous avoir dans le studio RMC ici à l'Alpe d'Huez. On est en train de parler de l'héritage des Jeux Olympiques. Qu'avez-vous envie de nous dire ? Est-ce qu'il fallait laisser tomber cette histoire d'héritage ? Parce que il y a certaines DGG qui n'y croient plus, et notamment Sarah Pitkowski et Christophe Cessieux. C'est quoi votre regard là-dessus, Antonin ?
Alors, je ne sais pas s'il fallait laisser tomber parce que il faut pas. C'est un objectif et il faut se mettre des objectifs quand on démarre un projet. Après, il faut voir qu'est-ce qu'on entend dans l'héritage. Pour moi, il y a plusieurs zones. Il y a l'héritage au niveau du handicap, il y a l'héritage au niveau paralympique, il y a l'héritage au niveau du sport français, il y a l'héritage au niveau de ce que le sport peut apporter en termes de d'engouement en tout cas et de bien-être que ça peut faire. Donc, effectivement, sur tous les plans, on n'a pas répondu. En tout cas, le projet n'a pas répondu, mais sur certains plans, je pense que voilà, l'héritage est quand même là et il y a de belles choses en tout cas qui restent de ces Jeux paralympiques et olympiques de 2024.
Sur quel plan justement ça a marché ? Alors tu parlais il y a quelques instants du handicap, vous êtes deux championnes paralympiques, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des prémices de quelque chose là ?
Alors justement, hein, au petit déjeuner, on a eu un long débat avec Nanto parce que on n'a pas le même handicap. Moi, j'ai un handicap moteur, Nanto a un handicap visuel et on parlait justement de ce qui était une question forte et un sujet fort des Jeux paralympiques de Paris, c'était rendre la ville de Paris accessible. Mmh. C'est un grand sujet.
Comment Nanto... les stations de métro, par exemple.
Ouais, alors exactement. Là, pour venir, j'ai pris le métro. Alors, je parle de mon handicap en tant que malmarchante. Encore, le schéma global d'accessibilité pour aller d'un point A à un point B, il est encore très compliqué, alors que c'était un vrai enjeu. Nanto a défendu son handicap, on a prêché pour sa paroisse entre guillemets, en disant ben, on a toujours réduit le handicap, l'accessibilité au schéma moteur. Nanto, je te laisse la parole.
Oui, alors juste pour préciser Nanto, parce que tu dis Nanto, je suis pas sûre que tout le monde sache qu'on m'appelle.
Non, pardon,
Nanto. Moi aussi, on avait compris, Nanto, ça marche.
Les autres, peut-être, toi, je suis moins sûre.
On a eu une bisbille hier soir, mais vous inquiétez pas, on s'entend extrêmement bien. Vas-y.
Non, c'est vrai que souvent, on entend parler d'accessibilité sur le prisme des personnes qui sont à mobilité réduite. Et c'est vrai que je trouve, en tout cas, que depuis quelques années, on parle d'accessibilité sur d'autres champs du handicap, notamment sur le handicap visuel, sur le handicap pour les personnes qui sont atteintes, qui ont des troubles autistiques notamment, sur les personnes malentendantes. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a eu un petit progrès. Après, ça c'était voilà, notre discussion de ce matin, il y a encore plein de choses à faire, ça c'est clair, sur la ville de Paris et sur d'autres villes, sur l'accès des transports. Et je pense que si on parle un petit peu de l'héritage au niveau sportif, on sort quand même des Jeux de Paris avec des avancées, avec les clubs inclusifs qui ont été montés par le Comité paralympique et sportif français, avec notamment aussi des endroits où le paralympique est mieux accueilli. Je ne dis pas que c'est parfait, mais voilà, il y a des sports où aujourd'hui qui n'étaient pas pratiqués forcément avant Paris, notamment la boccia, et où on les retrouve maintenant sur différents sites, et notamment le prisme à Bobigny, je crois qu'il est. C'est qui est une grande enceinte où, qui est dédiée en tout cas aux paralympiques et au développement en tout cas du paralympique et des études autour du sport au handicap.
Voilà. Alors justement, on parle de la boccia et d'Aurélie Aubert qui remporte cette magnifique médaille d'or aux Jeux paralympiques. Ils ont été submergés de demandes d'adhésion. Ils ont maintenant le problème qui se pose,
c'est comment les accueillir,
comment les accueillir, où les accueillir, comment les encadrer aussi. Donc on en revient à cette question du bénévolat rémunéré. Qui, pour moi, il faut rémunérer les bénévoles, les services civiques, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Tu parlais aussi de l'UNSS. Maintenant, le sport doit, ces clubs doivent commencer dès le primaire, ou même bien avant avec les baby sports et tout ça. Mais en tout cas, sur l'héritage, alors, c'est un mot, on parle de l'héritage, il y a aussi une notion financière. Lisa le disait, il y a eu le blues des Paralympiques, il y a eu le blues des Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a le programme du désengagement des team athlètes. Il y a eu cette vague de team athlètes, on va pas les citer.
Oui, non, mais il y en avait à tout bout de champ pour un oui, ouais, pour un nom. Tu pouvais être team athlète dans plusieurs marques. Ouais. Et aujourd'hui,
t'es team athlète nulle part.
Alors, t'es team athlète plus nulle part.
Ouais. Voilà, parce que il y a eu l'effet Paris. L'effet Paris s'est arrêté. Moi, j'ai poussé un coup de gueule sur LinkedIn en disant. Et les Jeux ne se sont pas arrêtés à l'issue de la cérémonie de clôture. Le handicap ne s'est pas arrêté à l'issue de la SEPH, qui est une semaine sur l'emploi des personnes handicapées. En tout cas,
Vous avez fait d'autres Jeux Olympiques, d'autres Jeux Paralympiques par le passé. Vous n'êtes pas naïf au point de d'imaginer que ça allait continuer comme ça sur l'euphorie. Vous saviez bien aussi.
On pouvait avoir l'espoir, les Jeux à la maison.
Que ça allait être un peu différent.
Que ça allait être un peu différent et surtout que les entreprises n'allaient pas. Là, je parle vraiment des teams, puisqu'on était là-dessus, n'allaient pas se servir, entre guillemets, des paillettes des Jeux et allaient vraiment s'inscrire de façon durable dans le sport et autour des valeurs du sport. L'idée, ce n'est pas de se servir du sport quand on en a besoin, c'est de se dire on accompagne des sportifs olympiques ou paralympiques et de les accompagner dans leur programme et dans leur parcours sportif.
Mais les entreprises, elles faisaient ça, pas dans un but de faire du bien, c'était de faire parler d'elles, évidemment, en bien pendant quelques mois. Et aujourd'hui...
L'inclusivité en entreprise est aujourd'hui une constante qui se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on pousse les entreprises à avoir un certain nombre de personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté gouvernementale, mais moi, je vais revenir encore en politique. Vous avez entendu parler d'un ministère du handicap qui n'aurait pas disparu c'est que là, sur le plan paralympique, on recule.
Oui, après les Jeux, il n'y a plus.
Il n'y a même pas de secrétaire d'État. Comment on peut représenter finalement quelque chose qui doit se développer dans nos sociétés alors qu'on envoie un signe qui est celui de finalement, on n'a pas besoin de représentants, on va vous mettre du handicap de manière transversale sur tous les ministères.
Pieds dans le plat. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous demandez aujourd'hui à ce qu'un homme comme Tony Estanguet, qui a porté ces sujets durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, soit le ministre des Sports? Est-ce que vous avez envie, vous sportif, et vous ne représentez pas que vous, évidemment, mais vous sportif, vous avez envie que ce soit une personnalité comme Tony Estanguet qui soit ministre des Sports?
Alors moi, quand j'ai vu, on a fait la cérémonie de clôture en direct du Stade de France, on a eu 80 000 personnes en train de clamer Tony, Tony. On voit, il a marqué les esprits, il a porté le sujet. C'est une personne qui pourrait être ministre des Sports, Et c'est un sportif. Il a porté ses jeux. Il a réussi ses jeux. Alors qu'on tirait à boulet rouge. On tirait à boulet rouge avant Paris. Tout le monde tirait à boulet rouge sur Tony, mais sur le Cojop et tout.
Est-ce qu'il aurait intérêt, lui, personnellement, d'aller aujourd'hui dans ce ministère avec un budget qui est réduit à peu de chagrin, avec une régression de.
Il n'est pas réduit parce que, logiquement, pour l'instant, le budget, il est mis en stand-by. Il n'est pas signé. Donc, si on a quelqu'un qui est capable de monter au créneau et de se dire, attendez.
Bien sûr, mais on va augmenter.
Si on veut croire en quelque chose, on est d'accord.
Qui va faire augmenter le budget.
Ça dépend comment tu négocies, en fait. Ça dépend comment tu négocies. Est-ce que tu
à un moment donné, si on a une personnalité influente, je pense que personne n'a rien contre Gilles Averrousse, mais Gilles Averrousse, maire de Châteauroux, est un peu arrivé de nulle part. Tony Estanguet, lui, a imprimé.
Il aurait plus de poids.
Je pense qu'effectivement, je rejoins Cécile sur certaines choses. On a besoin de personnes de conviction. Tony, c'est une personne de conviction qui, effectivement, a porté ses jeux à bouloir, a bien accompagné, bien entendu, mais qui est convaincu de ce qu'il fait. Et je pense, effectivement, que ça pourrait faire du bien d'avoir une personne comme Tony Estanguet à la tête du sport français, en tant que ministre, parce qu'effectivement, il sait convaincre. Et puis, il a l'appui des sportifs, il a la confiance des sportifs, et il a compris les enjeux aussi qui sont les nôtres. Donc après, voilà, la question, c'est est-ce qu'il a envie ?
Vous lui demandez d'y aller ? Vous lui demandez d'avoir envie d'y aller ?
Il a refusé une première fois.
Mais il a laissé une petite porte ouverte. Il a dit, il ne faut jamais dire jamais.
Puis il a gagné la légitimité auprès des personnalités politiques par la réussite.
Et là, aujourd'hui, en plus, un poids politique pour peut-être obtenir des choses plus que le maire de Châteauroux.
Et je pense qu'il a aussi du poids sur les entreprises, puisqu'il était au premier contact avec ces entreprises qui ont été partenaires des Jeux. Donc, il a peut-être des doubles entrées qui peuvent aider à un moment.
Du positif, on voit que c'est très difficile de composer un gouvernement, de choisir un Premier ministre. Bah nous, on a un ministre des Sports totalement
qui
compétent.
Qui fait l'unanimité.
Ok, vous lui demandez de...
Il y a plus que lui.
Le mot de la fin, Cécile.
Alors moi, je place mes espoirs autre part. Et on parle d'héritage. On a les Jeux de France 2030 qui vont arriver bientôt.
Il y a aussi beaucoup de doutes là-dessus.
Oui, d'accord. Avant, on a les Jeux de Milan-Cortina dans 448 jours, donc dont je ferai partie. Mais on a les Jeux de France 2030. Paris a montré l'exemple, a montré la voie. Là, on voit le programme La Relève, qui est quelque chose de hyper important pour les Jeux paralympiques en termes d'héritage, d'infrastructures, de sportifs, de valeurs, d'intérêt pour les entreprises. Donc, moi, je mise beaucoup sur ça. On va voir qui va être le
président du...
Ouais. Il y a deux noms qui sont dans la shortlist.
Il y a Vincent G, il y a Marie Martineau et puis il y a évidemment Martin Fourcade. Voilà, les trois noms, ça devrait être décidé. La deadline, c'est mi-décembre.
Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour l'instant, a priori.
Non, mais on...
T'as des infos ?
Oh là là, il y a des infos. Cécile, on doit partir en pub, faut nous dire maintenant.
En tout cas, l'héritage, il va se poursuivre.
Voilà, la langue de bois.
Cécile, tu t'es mise dans des problèmes. Tu es trop près de Denis Charvet, là. Tu fais le tien.
Allez, Martin, c'est ça ?
Non, parce que je connais les deux. Donc, du coup, on peut rien dire. Mais okay. ça va sortir très bientôt. Et l'héritage, on vise sur France 2030 pour poursuivre cet héritage des Jeux paralympiques, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques.
Merci beaucoup, Cécile Hernandez. On te retrouvera sur RMC, notamment sur ces Jeux paralympiques de 2026 en Italie, Nathana Caïta. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct de l'Alpe d'Huez pour les grandes gueules du sport. On se retrouve dans quelques instants pour le débat caché avec nos amis GG, Sarah Pitkowski, Julia Beneteau, Denis Charvet et Christophe Cessieu. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47, de retour dans les grandes gueules du sport. La dernière ligne droite, justement, des GG, toujours en direct de l'Alpe d'Huez avec Sarah Pitkowski, Christophe Cessieu, Denis Charvet, Julien Beneteau. À partir de midi, restez bien avec nous, les Paris RMC, avec toute la Dream Team, pour parler notamment de la Ligue 1, mais également de la Champions Cup. C'est le grand retour de la Coupe des Champions. Ce week-end, on vous donnera les meilleures cotes. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Ah, vous aimez cette séquence, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre sur un sujet pour l'instant inconnu pour elles. Mais dans quelques instants, elles vont savoir. C'est maintenant le débat caché.
Neymar, Tadej Pogacar, c'est un killer, c'est un tueur. Tadej Pogacar, le maillot jaune n'est pas un seigneur, c'est un killer. Il va aller s'imposer la cinquième victoire d'étape sans problème pour Tadej Pogacar, le maillot jaune qui égale aujourd'hui au nombre de victoires d'étape Jacques Anquetil.
Après une saison exceptionnelle, Tadej Pogacar, on en a un peu parlé à 9h45, a reçu évidemment le vélo d'or de la saison récompensant le meilleur coureur cycliste. Le doublé, Giro Tour de France, le maillot arc-en-ciel de champion du monde, deux monuments, 25 victoires au total. Bref, le Slovène, vous le savez, a roulé sur tout le monde. Mais qu'est-ce qui peut encore le faire courir? Un triplé inédit? Giro, Tour de France, Vuelta? Hier, Pogacar a répondu à cette question.
Non, je n'y pense pas vraiment. Faire trois grands tours dans la même année, c'est une chose, mais y aller pour la victoire, c'est différent. Et puis on a 30 coureurs dans l'équipe, ils ont aussi leur chance, donc je peux me contenter d'en faire deux.
Pour l'instant, c'est refus d'obstacle de la part de Tadej Pogacar. Doit-il absolument tenter le triplé pour entrer vraiment dans la grande légende, pour être le meilleur de tous les temps? Doit-il tenter le triplé? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Je ne suis pas convaincu, non.
Pas convaincu, Sarah Piskowski.
Je ne vois pas comment c'est possible, sinon là, c'est plus du surhomme, c'est là, on va avoir vraiment des doutes. Là.
Ok, on repartirait sur les doutes, donc il ne faut pas qu'il le fasse. Denis Charvet.
Non, je ne suis pas convaincu.
Pas convaincu non plus, Julien Beneteau.
Non, il peut rentrer dans la légende définitive.
Il est déjà,
mais en fait, il faut qu'il gagne 6 Tours de France. Et là, il sera dans la légende. S'il passe définitivement,
qui gagne Paris-Roubaix, qui gagne Milan-San Remo, voilà. Qui gagne tous les monuments
et qu'il
atteigne au moins 5 victoires dans le Tour de France.
Il faudrait qu'il les dépasse. J'aimerais qu'il les dépasse.
Il y en a qu'un qui les a dépassés, mais on lui a enlevé.
On lui a enlevé. Ouais.
Non, mais la Vuelta, c'est un mois après le Tour de France.
C'est fin août, donc oui, tu
vois. Oui, c'est un mois. Enfin, il y a un moment où s'il enchaîne les trois grands tours, on va vraiment se poser des questions.
T'as un mois d'écart entre les trois tours, tu vois.
C'est égal les trois tours dans la même année avec 8 minutes d'avance au général.
Ah ouais, non, là.
Mais pardonnez-moi, mais vous vous rendez compte qu'on pose une question sur ce que n'a jamais fait un athlète, et vous me répondez oh là là, il faut surtout pas,
non,
parce
mais
que
non,
sinon
mais
on va
dire. Non, mais il y a des raisons.
Moi je te réponds, et pour qu'il rentre dans la légende, il faut qu'il fasse autre chose qui n'a jamais été fait par un athlète, gagner 6 Tours de France. Ça n'a jamais été fait.
Je pense que ce ne serait pas servir le vélo, pour tout te dire, qu'un athlète réussisse à faire le triplé la même année.
Pourquoi?
Parce que les, déjà que de ce sport est la cible de toutes ces suspicions. Là, ce serait encore pire.
Donc imagine, c'est pas possible pour toi.
Je pense qu'il a pas intérêt à le faire. Je pense qu'il n'a pas intérêt à le faire.
Dire que
et je ne pense pas que ça lui amènerait plus. Qu'il remporte un jour le Tour d'Espagne, ça oui, qu'il l'ajoute à son palmarès, peut-être en faisant Tour de France, Tour d'Espagne dans la foulée.
Comme a fait Vingegaard.
Oui, mais ce qui est terrible, il a déjà fait Giro Tour de France, il peut faire Giro Vuelta, mais gagner les trois dans l'année. Oui, en gagnant Paris-Roubaix, en étant champion du monde et en gagnant le Tour des Flandres, là franchement.
Non, mais ce qui est terrible, c'est que tu dis un coureur ne peut pas gagner tous les trois grands.
Mais c'est intéressant de demander.
Ça fait 9 semaines de course en l'espace donc de début juin jusqu'à mi-septembre. C'est inhumain. Surtout que le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie sont des tours très montagneux, plus montagneux que le Tour de France, parce que ils veulent aller dans la surenchère pour essayer d'égaler ou de dépasser le Tour de France. Ils n'y arriveront jamais. Mais du coup, les tours d'Espagne et d'Italie sont en termes de.
En fait, il faudrait demander à Marc Madiot ou à d'autres directeurs, évidemment pas de l'équipe de Pogacar et de la Jumbo-Visma, enfin de l'équipe de Vingegaard, s'ils pensent que c'est possible.
Physiologiquement. Bah oui.
Déjà, ceux qui sont à l'intérieur du cyclisme, ceux qui connaissent les cadences d'entraînement, les cadences de compétition, etc., s'ils pensent que déjà, c'est possible, dans la même année, de gagner les trois tours.
Mais s'ils se gèrent,
avec des mini-doses, de l'hormone de croissance, tu peux y arriver.
Avec du monoxyde de carbone.
On en a parlé la semaine dernière, à les podcaster, c'était passionnant, évidemment, dimanche dernier. Mais non, mais au-delà de ça, parce qu'on connaît le tempérament de Jonas Vingegaard, de Tadej Pogacar. Il veut courir, mais en plus il veut tout gagner dans ses courses.
Marquer l'histoire,
même s'il est au-dessus, il a envie de gagner toutes les étapes. Est-ce qu'à un moment donné, un coureur comme lui qui est au-dessus, qui a tant d'avance, il ne peut pas se dire ok, je tente les trois, mais je vais me gérer, c'est-à-dire que je vais pas remporter 5 étapes du Giro, 5 étapes du Tour de France, 5 étapes de la Vuelta, je vais juste tenter de jouer le général et de gagner et d'être le meilleur.
Je pense qu'il est capable en plus. En gérant, effectivement, comme tu le dis, pas forcément gagnant 5-6 étapes.
C'est plus le mental qui. Parce que je te disais, donc c'est 3 semaines, ça fait 9 semaines. Oui. 9 semaines où tu dois être concentré tous les jours. Tous les jours. Il y a non seulement les efforts physiques, mais il y a la concentration, c'est-à-dire être toujours bien placé dans le peloton, savoir où sont tes équipiers.
Oui, c'est ça l'objectif majeur.
Non, mais si tu le prépares. Ce serait plus un effort pour moi, un effort psychologique.
Mais oui,
un effort
physique.
Mais si tu le prépares. Alors, pas du tout. Moi, je ne le vois pas du tout. Tu lui mets trois équipes différentes qui vont travailler différemment sur les trois tours et qui va moins réfléchir.
9 semaines dans une année de trucs. Nous, les tennisman, les meilleurs, ils ont une concentration sur 15-20 semaines par an. Les Djokovic, Nadal, Federer, etc. Quand ils gagnaient 9-10 tournois dans la même saison.
Non, mais là, on ne te dit pas sur une année, là, on te dit en 2 mois. En 2 mois, Julien,
oui,
tous les jours, vous faites un match, ça dure quoi, 2h30 hein,
ouais, tu sais jamais combien de temps ça dure.
Un grand chelem, donc oui.
Tu sais,
2h30, 3h.
Ouais, une
course de vélo, c'est 5h par jour.
Pour moi, l'effort physiologique, il est plus important que la concentration, mais
moi j'aimerais bien avoir des données,
la peur de la chute, toujours être bien placé dans le peloton.
Oui, mais quelle est la part de ça
pendant toute la journée, enfin une grande partie de la journée, t'es sur ton vélo, t'es sous tension, t'as la récup, derrière t'as les médias, t'as le massage qui dure des heures, le passage aux médias qui dure des heures, t'as
le transport,
c'est un effort psychologique hallucinant.
Non, mais que ça soit un effort psychologique, mais quand tu vois l'encadrement des grandes équipes,
vous arrivez après votre match, vous descendez, conférence de presse, vous êtes assis dans votre fauteuil, il n'y a plus de questions qui arrivent.
Après, ils vont pas.
Ouais, mais lui qui dit ça, lui, c'est le seul qui n'est pas sportif autour de la table.
Tu n'avais jamais osé me la faire en 10 ans.
Non, c'est vrai. Tu sais quoi, elle m'a été soufflée, Christophe. Je me suis laissé emporter. Non, c'est qu'aujourd'hui, l'encadrement des équipes cyclistes, elle est autant importante sur le plan sportif que sur le plan médical. Donc c'est qu'il y a bien un enjeu médical et physiologique pour pouvoir absorber ces doses de grand tour. Donc la part de physiologie ou de concentration, oui, Marc Madio, j'aimerais bien que tu nous dises quelle est la part de la physiologie et du mental.
Tu interpelles Marc Madio, évidemment, on l'appellera, on lui demandera de répondre à cette question. Voilà. On a compris, merci beaucoup Sarah, merci Bravo. Christophe, merci Julien, merci Denis Charvet.
Pas mal ton débat caché. Il était mal parti, en fait, il est pas mal.
Bravo.
Tu l'as trouvé ce matin.
Franchement, être jugé par ses pairs comme ça, c'est un vrai honneur. Merci beaucoup les grandes gueules du sport, on se retrouvera demain. À partir de 9h, toujours en direct de l'Alpe d'Huez.